Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis la fin du 19e siècle. Et ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer une émission thématique à l'image de la Chine dans le cinéma américain. Alors ça fait un peu sujet de thèse, mais rassurez-vous, je me garderai de sombrer dans l'érudition trop pointue. On va juste évoquer quelques films qui, soi-disant, se passent en Chine, soi-disant, montrent des Chinois, mais qui le font d'une manière à l'américaine, quoi. Et on va commencer par un film qui fut un très très gros succès en 1958, quand il sortit sur les écrans, un film de Mark Robson, intitulé L'auberge du sixième bonheur. Je ne vous le fais pas en anglais, puisque c'est la même chose, mais en anglais, un film qui mettait en vedette dans les rôles principaux Ingrid Bergman, Kurt Jürgens et Robert Donat, donc une interprétation très éclectique. Alors le film se passe quelque part dans la Chine des années 30, une Chine qui va bientôt être envahie par l'armée japonaise, car il faut rappeler que avant l'avènement du Parti communiste, eh bien, l'histoire chinoise a été très tourmentée, et notamment elle a été très tourmentée par une invasion japonaise qui fut très cruelle et dont les Chinois, a priori, gardent encore rancune. Le Chinois se souvient, lui. Et en l'espèce, le film raconte les aventures exemplaires de Ingrid Bergman, qui joue une jeune Anglaise, qu'elle n'était pas vraiment, et qui rejoint la mission d'une chrétienne qui a bien du mal à survivre. Elle sera aidée par un capitaine chinois interprété par Kurt Jürgens, qui était à peu près aussi chinois que moi, je suis néo-zélandais, mais ma foi, c'est comme ça, et par un autre chinois intitulé Le Mandarin, et qui est interprété par un acteur dont le nom, hélas, vous sera sans doute inconnu, Robert Donat, qui lui aussi était aussi chinois que je suis néo-zélandais, mais ma foi, à l'époque, ça se faisait comme ça à Hollywood. Robert Donat, dont ce fut le dernier film, alors que dans les années 30-40, ça avait été une très grande star du cinéma américain et aussi du cinéma anglais. Pour faire bonne mesure, le film fut tourné dans un village chinois entièrement reconstitué à quelques kilomètres de Londres, ce qui fait que, pour récapituler, ni les acteurs et actrices n'étaient chinois, ni le lieu du tournage n'était chinois. Remarquez, en 1958, ça aurait sans doute été difficile d'aller tourner sur place. Il n'empêche que ce fut une grosse réussite commerciale. La musique de ce film est signée de Malcolm Arnold et je vous propose d'en écouter un extrait dans 24 notes secondes.
Thank you.
quelques clochettes au final pour rappeler qu'il est question d'enfants pour un extrait de la bande originale de Malcolm Arnold, la bande originale Articule, l'auberge du sixième bonheur, un film de Mark Robson. Alors, c'était assez rare à l'époque, donc on peut le souligner. Cette bande originale fut aussi un grand succès, justement parce qu'elle comportait une marche des enfants. Là, on a écouté le générique de début, mais elle comportait une marche des enfants qui fut un très très grand succès. Il faut dire que Malcolm Arnold, l'année précédente, avait signé la bande originale du Pont de la Rivière Kwai, un film de David Lean qui avait lui aussi connu un très très grand succès, et dont la musique aussi avait connu un très très grand succès. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, je l'ai dit, nous évoquons la Chine, mais vue par les yeux américains. Et on va continuer avec un film beaucoup plus dur, un film de Robert Wise, tourné en 1966. Ça s'appelait en français La canonnière du Yangtze, en américain The Sand Pebbles. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais j'essaierai de le retrouver avant la fin de cette émission. La canonnière du Yangtze, eh bien, c'est l'histoire d'un petit bateau, une canonnière, qui remonte le Yangtze, un fleuve, ça sans doute vous le savez, quelque part au printemps de 1927, alors que la Chine se déchire dans une guerre fratricide et qu'il s'agit de ne pas intervenir, puisque c'est les ordres qu'a reçus le commandant de ces navires de guerre. Alors, à la limite, là encore, l'allusion à la reconstitution de l'histoire de la Chine, qui elle est quand même beaucoup plus authentique que celle de l'auberge du sixième bonheur, est accessoire, puisque 1966, ai-je besoin de vous le rappeler, c'est le plein cœur de la guerre du Vietnam et que par conséquent, un film qui évoque une non-intervention américaine dans un pays oriental ne peut pas ne pas faire penser à la guerre du Vietnam et aux luttes, puisqu'il y en eut aux États-Unis entre les partisans de l'intervention et puis ceux qui souhaitaient arrêter cette guerre qui ne menait à rien, comme la suite l'a prouvé, c'est-à-dire juste à la défaite honteuse et au départ précipité des troupes américaines. En l'espèce, la canonnière du Yangtze, une fresque de près de 2h30, mettait tout le monde d'accord, puisque, au risque de vous divulgâcher la fin, eh bien, à la fin, les trois héros, c'est-à-dire un missionnaire, un soldat un peu dépassé par les événements et un autre qui obéissait aux ordres, eh bien, les trois héros se retrouvent morts sur le pont du bateau, histoire de dire qu'en fait, eh bien, il vaut mieux ne pas intervenir dans des guerres qui ne concernent que les pays dans lesquels elles se déroulent. Enfin, on pourra transposer, si l'on veut, l'interprétation à l'époque actuelle. Les interprètes, eh bien, c'est Steve McQueen dans le rôle principal. À l'époque, Steve McQueen était une très très grande vedette. À ses côtés, Richard Attenborough, depuis Sir Richard Attenborough, qui fut un des piliers du cinéma anglais, à la fois en tant que réalisateur, mais aussi comme ici, en tant qu'acteur très convaincant. Et Richard Crenna, j'ai déjà été très long, mais juste encore une petite chose, pour vous dire que l'un des rôles secondaires du film était tenu par une certaine Mariah Andriani. Et Mariah Andriani, eh bien, quelques années plus tard, elle écrivit un roman qui connut un certain succès. Le roman, il s'appelle Emmanuel. Et le reste, eh bien, vous le connaissez peut-être. La musique, elle est dignée de Jerry Goldsmith. Alors, les fidèles de 24 notes secondes savent que Jerry, c'est mon dieu de tous les temps. Donc, on écoute avec le respect nécessaire un extrait de sa bande originale, La canonnière du Yangtze, dans 24 notes secondes. Thank you. cuivres, percussions et cordes à leur extrême, c'est tout l'art de Jerry Goldsmith pour la bande originale de La Canonnière du Yangtze, un film de Robert Sway tourné en 1966. L'une des premières grosses productions auxquelles participe Jerry, sauf erreur de ma part, il eut cette année-là une nomination à l'Oscar, mais qui ne fut pas couronné de succès. Un film très très dur à vrai dire, mais très réussi aussi. Robert Wise, qui fut entre autres le réalisateur de West Side Story, eh bien, savait comment composer ses plans, et l'homme parvenait à nous tenir en haleine pendant 2h30 avec une histoire finalement relativement anodine, puisqu'il s'agissait juste de remonter le Yangtze, mais remonter le Yangtze à l'époque, c'était un monde. On va continuer avec la Chine vue d'Hollywood, en revenant quelques années en arrière, de nombreuses années en arrière, puisqu'on va écouter la bande originale d'un film de John Stahl, tourné en 1944. Ça s'appelle « Les clés du royaume », la même chose en anglais. C'est inspiré d'un romancier qui, à l'époque, était très très connu, qui, à ma connaissance, l'est moins maintenant. A.J. Cronin, une histoire qui rappelle un peu celle de l'auberge du sixième bonheur, sauf que cette fois-ci, eh bien, c'est un prêtre catholique traditionnel et écossais. Je ne savais pas qu'il y ait des catholiques écossais, ma foi, je l'apprends. Interprété par Gregory Peck, donc un homme qui a de la carrure. Gregory Peck était un grand acteur dans les deux sens du terme. Et à ses côtés, Thomas Mitchell, Vincent Price. Il s'agit d'évangéliser les Chinois, ma foi, comme on le sait maintenant, il n'y parvient pas vraiment, mais enfin dans le film, il y parvient. Là encore, il y a quelques épisodes édifiants. Le tout est édifiant, mais quand même solide, puisque le scénario du film était signé de Nunnally Johnson, que vous ne connaissez pas, mais sans doute, hein, mais qui fut un grand scénariste des années 40 à Hollywood, et de Joseph Mankiewicz, qui fut, lui, un des grands réalisateurs du cinéma américain des années 60. On lui doit Ève, l'aventure de Madame Muir, Cléopâtre, que sais-je encore comme chef-d'œuvre. La musique du film, elle est signée d'Alfred Newman. De toute façon, toutes les musiques des films sortis dans les années 40 sont signées d'Alfred Newman. Non, j'exagère un peu, mais c'était l'époque où les compositeurs signaient peut-être 10 partitions par an. C'est quand même énorme. Alfred Newman, Les clés du royaume dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale de The Case of the Kingdom, Les clés du royaume, un film de John M. Stahl. Je ne sais pas pourquoi le M stands for, mais on le saura un jour. Un film dans lequel Gregory Peck était l'interprète principal. Et Gregory Peck, eh bien, on va le retrouver 25 ans plus tard à nouveau en tant qu'interprète principal d'un film de Jack Nicholson, tourné donc, vous avez calculé, hein, en 1969. Alors le film s'appelle « L'homme le plus dangereux du monde ». Il s'appelle de la même manière en anglais. L'histoire est tellement invraisemblable que je ne peux pas ne pas vous en dire quelques mots. L'histoire se passe justement entre 68 et 69, qui est en Chine l'époque de la révolution culturelle lancée par le président Mao. Et les Chinois semblent avoir trouvé un moyen révolutionnaire de faire pousser du blé et par conséquent d'acquérir un avantage décisif sur le marché des céréales. Du coup, on envoie Gregory Peck en Chine. Je ne sais pas comment il fait pour y aller, mais on envoie Gregory Peck en Chine pour rencontrer son vieux maître, qui est un Chinois, interprété par un vrai Chinois, Kai Luk, pour une fois, pour lui extirper la formule magique de ce blé révolutionnaire. Et on a, à son insu, inséré dans le crâne du susdit Gregory Peck une bombe qui doit exploser quand il rencontre le président Mao, puisque dans le film, il rencontre le président Mao, aussi incroyable que cela puisse paraître. Je vous laisse les autres péripéties, si ce n'est qu'à la fin du film, Américains et Soviétiques collaborent contre le méchant Chinois, comme quoi, les temps changent et que ce qui est le méchant d'un jour devient le gentil d'un autre jour. Tous ceux qui ont lu 1984, la célèbre dystopie de George Orwell, le savent comme moi. La musique de film, oh joie, de ce film est signée à nouveau de Jerry Goldsmith et on va écouter le générique alors que d'aucuns caricaturèrent ou sur lequel ils ironisèrent puisque le générique reconstitue pour les mal comprenants les débuts de la révolution culturelle dont on sait qu'elle fut un épisode plutôt sanglant, mais vous allez écouter la musique, elle donne envie d'avoir vécu la révolution culturelle dans 24 notes secondes. Thank you. Ah ben ça, si c'est pas une musique qui donne envie de vivre la révolution culturelle, alors je ne sais pas moi. Hein. Un extrait de la bande originale de L'homme le plus dangereux du monde, une sublimissime musique de Jerry Goldsmith, un film de Jack Lee Thompson. Alors le film, il est aussi connu sous le nom de The Chairman. Et The Chairman, eh bien c'est notre cher président Mao qui avait lancé la révolution culturelle. Et ma foi, eh bien pour arrêter d'ironiser sur ce sujet grave, beaucoup, beaucoup en moururent. Et la révolution culturelle reste un traumatisme majeur de la Chine, même si évidemment on n'en parle plus. On va se quitter dans un genre tout à fait différent et légèrement polémique peut-être, puisqu'on va retourner en 1937 pour ce qui est d'Hollywood et à la guerre civile chinoise quelques années auparavant pour ce qui est de la Chine, avec un extrait de la bande originale d'un film qui s'appelle Horizon perdu. Alors Horizon perdu, ça ne vous dira peut-être rien, mais c'est un roman de James Hilton, cultissime. C'était le livre préféré, dit-on, du président Franklin Delano Roosevelt. Et là encore, sans vous divulgâcher, c'est l'histoire d'un avion donc, qui s'écrase dans un coin perdu du Tibet. C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu polémique. Et en fait, cet endroit qui s'appelle Shangri-La, eh bien, c'est une sorte de paradis perdu où on ne vieillit pas. En tout cas, on ne vieillit pas tant qu'on est à Shangri-La. Parce que quand on essaie de redescendre dans la vallée, eh bien, on prend toutes les années qu'on n'a pas eues en restant à Shangri-La. Et c'est ce qui arrive aux interprètes, aux personnages dans le livre. Dans le film, c'est un peu différent. Et Shangri-La, peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu, eh bien c'est une invention de James Hilton et le roman a eu un tel succès que depuis ce terme désigne un paradis pour ceux, chacun je pense, dans son cœur ou dans sa vie, ou dans les deux, je l'espère pour vous, a un Shangri-La quelque part. Et en 1937, donc Frank Capra adapta un roman cultissime et s'entoura d'acteurs très connus comme Ronald Goldman, qui était un peu un Gary Cooper un acteur aussi connu que Gary Cooper ou que quelques autres à l'époque, comme Clark Gable, je cherchais le nom. À ses côtés, il y avait d'autres solides acteurs, Edward Everett Horton, Thomas Mitchell, qu'on avait vu deux ans plus tard, dans Autant n'emporte le vent. Mais ma foi, le film fut un très très lourd échec commercial, alors qu'il avait coûté fort cher. Inutile de vous dire, là encore, que rien ne fut tourné au Tibet, encore moins en Chine. Mais l'insuccès du film est une injustice, car les horizons perdus, Lost Horizon, c'est une très très belle méditation sur la vie, sur la mort, sur la vieillesse, sur le corps, sur ce que c'est d'être heureux ou de ne pas être heureux. Bref, un film de Frank Capra, je ne sais pas si je l'avais dit, un réalisateur tout à fait subtil et qui, dans ces années-là, était un réalisateur aux succès commerciaux conséquents, comme New York-Miami, tourné en 1934. Ou l'extravagant Mr. D tourné en 1936, mais les horizons perdus, ce furent aussi les siens, même s'il continua sa carrière. On va écouter donc un extrait de la bande originale de ce film pour conclure cette émission consacrée à la Chine. Elle est signée de Dimitri Tiomkin dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.